Le jour se lève à peine sur Houston quand je tire la fermeture éclair de mon sac de voyage. D'un geste à la fois déterminé et machinal. Le bruit résonne dans la pièce austère, une mélodie que je connais par cœur. Je ne m'attarde jamais longtemps au même endroit. J'attrape la bandoulière d'une main avant de projeter sans effort mon maigre bagage devant la porte d'entrée. Ma vie tient dans ce sac et ne pèse pas bien lourd. Habituée à ce rituel, je survole une dernière fois l'appartement du regard. Même s'il n'est composé que d'une pièce, sobre et déprimante, je m'assure de n'avoir rien oublié et de ne laisser aucune trace derrière moi. À l'exception d'une seule, comme toujours. Invisible pour n'importe qui, hormis mon père adoptif. Un indice subtil qui lui permettra de remonter ma piste jusqu'à la destination suivante. Depuis que nos chemins se sont séparés en Californie, j'en ai semé un dans chaque ville où j'ai séjourné. C'est le seul moyen de communication dont je dispose et personne d'autre que Clifford Westbrook n'est en mesure de le détecter si toutefois il décide de me chercher. Étant donné la façon dont s'est déroulée notre dernière conversation, j'en doute chaque jour davantage. Et des jours, il s'en est beaucoup écoulé depuis qu'il a claqué la porte derrière lui à San Francisco. 249. Inutile de me torturer les méninges pour calculer. Mon cerveau est un serveur infatigable, capable de mettre à jour ce genre de données sans effort, alors qu'il y a tellement de choses dont j'aimerais me souvenir à la place. 8 mois sont donc passés depuis sa dernière apparition. Une part de moi s'inquiète, tandis qu'une autre est trop habituée à ses absences pour s'en émouvoir. Voilà bientôt 3 ans que nous avons quitté l'Angleterre pour revenir aux États-Unis, et même s'il a toujours eu la bougeotte, notre retour a intensifié la cadence de ses expéditions solitaires. Mon âge compte aussi, puisque je ne suis plus une gamine qui a besoin d'être constamment surveillée par son tuteur légal. Quoique, je mentirais en disant que je n'ai pas profité de cette nouvelle indépendance pour entreprendre des activités plus audacieuses que celles auxquelles il m'a entraînée. Sans regret. Mon père n'est pas là, et même s'il m'a laissé une belle somme d'argent avant de s'en aller, je n'ai pas envie de changer mes habitudes, ni de me trouver une nouvelle vocation. Et puis, c'est lui qui m'a appris à exceller dans ce domaine. Alors nous partagerons cette responsabilité quand il refera surface. Mon sac sur l'épaule, je referme la porte derrière moi. Dans le couloir, comme prévu, je tombe sur la jeune femme que je rémunère grassement pour opérer un grand ménage après mon départ. Je me contente d'un simple hochement de tête tout en lui glissant discrètement plusieurs billets dans la poche. Elle acquiesce à son tour et je dévale les marches sans me retourner. Les cheveux dissimulés sous un bonnet et des lunettes de soleil posées sur le nez, je descends la rue d'un pas tranquille. Le mois de janvier est doux et le déluge d'hier a cédé la place à un ciel dégagé. Dommage, la pluie rend souvent les gens moins vigilants. Je m'arrête pour acheter un café auprès d'un vendeur ambulant sans jamais cesser d'observer les passants. La façon dont ils se déplacent, les vêtements qu'ils portent et leur degré d'attention. Je m'assure aussi qu'aucun d'eux n'affole mon radar interne. 2 comprimés de paranoïa, matin, midi et soir. Après un rapide coup d'œil alentour pour vérifier que le périmètre est sûr, je me remets en route, un léger sourire aux lèvres. Sourire qui s'évanouit lorsque je heurte un homme près d'un kiosque à journaux. Je suis tellement confuse! Je m'écris devant sa mine excédée. Merde, regardez où vous allez, nom d'un chien! Il grogne en lissant sa chemise du plat de la main. Il louche sur mon grand gobelet de café, soulagé qu'il ne se soit pas renversé sur lui. Pardon, je souffle en grimaçant. Je m'accroupis près de ses chaussures hors de prix avant de me relever, le bras tendu entre nous. Tenez, votre portefeuille est tombé. Oh, merci. Je vous en prie. Encore désolé, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Il agite la main en marmonnant et reprend son chemin. Inconscient du mouvement de ma bouche qui articule silencieusement un « Mais c'est moi qui vous remercie ». Sans perdre une seconde, je me faufile à travers la foule jusqu'à la berline noire que j'ai repérée un peu plus tôt. J'attrape la clé au fond de ma poche, déverrouille la portière et me glisse derrière le volant. L'habitacle dégage une odeur de fric et d'eucalyptus. Oh, génial! Des sièges chauffants! Je me dis à moi-même en bouclant ma ceinture. Je tourne la clé dans le démarreur avec mes mains gantées et m'infiltre dans la circulation. Un rapide coup d'œil dans le rétroviseur me confirme que l'homme que je viens de bousculer et de détrousser par la même occasion n'a rien remarqué. Un jeu d'enfant. Je suis tellement confuse, je répète, comme s'il pouvait m'entendre, avant d'enfoncer la pédale d'accélérateur. J'ai des méthodes plus discrètes et perfectionnées pour dérober ce qui ne m'appartient pas. Mais parfois, quand l'ennui m'envahit et que la sensation d'adrénaline me manque, j'aime jouer avec le feu. Si mon père était là, il m'adresserait une moue sévère et trouverait mille façons de me tourmenter en représailles. Mais il n'est pas là. Mon souffle fluctue, je déglutis. Pas maintenant. J'augmente le volume de la radio et m'adosse confortablement contre le cuir tiède. Devant moi, plus de 500 km me séparent de ma prochaine escale. La Nouvelle-Orléans. Je me promets de jouer la carte de la prudence lorsque je volerai une autre voiture en chemin. Après tout, j'ai un travail qui m'attend là-bas. Ce serait idiot de tomber pour si peu. J'en connais une qui vouerait son existence à me le rappeler. J'imagine très bien quel genre de message Samira parviendrait à me transmettre en prison. Une voiture ? J'espère que les jantes étaient en or. Je te dégote le plus gros contrat que t'aies jamais eu et tu te fais choper en chemin pour un stupide vol de voiture. Tu ne mérites pas que je mette mes extraordinaires compétences à ton service. Je te souhaite une codétenue horrible. Une chose est sûre. Sans ce petit génie de l'informatique qui joue les intermédiaires pour m'obtenir des contrats, les choses seraient bien plus compliquées. Je ne la connais que virtuellement, mais je n'ai pas envie de me passer d'elle. Peut-être aussi parce qu'elle est la seule personne régulière dans ma vie depuis près d'un an. Je tiens le volant d'une main, tandis que l'autre fouille dans la poche intérieure de ma veste. J'en sors un brouilleur GPS que j'active rapidement, sans quitter la route des yeux. Ce genre de véhicule dispose forcément d'un système de géolocalisation. Vu la jauge d'essence, je dispose de suffisamment de carburant pour quitter le Texas et atteindre le sud-ouest de la Louisiane. Le propriétaire malchanceux n'aura pas à parcourir beaucoup de distance pour récupérer son bolide dès que le signal GPS sera réactivé. J'ai une conscience. Sauf concernant le paquet de chewing-gum que j'aperçois sur le tableau de bord. Ce petit plaisir, il ne le reverra pas. J'enfourre un dans ma bouche et double un bus scolaire. En atteignant la périphérie de Houston, je jette un dernier coup d'œil dans le rétro pour m'assurer qu'il ne reflète rien de suspect et je me perds plusieurs secondes dans la contemplation des immeubles qui défilent. J'ai apprécié de vivre ici, même pour quelques semaines. C'est d'ailleurs l'endroit où je me suis le plus attardée depuis mon retour aux États-Unis. L'idée de ce retour me semble toujours étrange, parce que j'avais seulement 6 ans quand nous sommes partis en Europe. Je ne me souviens presque pas de cette époque américaine. J'aurais préféré rester en Angleterre. Là-bas, j'étais heureuse et mon père... Ne pense pas à lui maintenant, je grommelle en combattant le malaise qui revient en force. Trop tard.